Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Paris 8, de Vincennes à Saint-Denis.
Il faut savoir que l'université Paris 8 a été créée donc, dans une optique anti-Sorbonne, c'est-à-dire anti-élitiste. Chez nous, déjà, par notre situation entre guillemets économique, on travaille tous à côté, la plupart, on est une fac d'étudiants salariés.
Effectivement, Saint-Denis, c'est une fac beaucoup plus pauvre qu'ailleurs. On est pas mal marginalisé vis-à-vis de cette image-là, mais nous, on en est fiers de ça. Un des concepts de l'université, c'est de donner accès à tout le monde.
C'est donc dans l'enseignement supérieur, une scolarité de 3 ans dans les plus grandes écoles commerciales dépasse les 40 000 euros. Paris 8, au contraire, a toujours porté comme une bannière l'idée d'un recrutement le plus large possible. Cette université est persuadée aussi que l'innovation pédagogique doit être issue de son expérience propre. Mais aujourd'hui, d'un côté, le secrétaire d'État aux universités explique que la sélection n'est pas un gros mot, et de l'autre, ses prédécesseurs ont imposé l'internationalisation des cursus universitaires et les regroupements d'établissants. Courant derrière les autres, derrière les réformes qui se suivent, à un rythme d'enfer, Paris 8 s'essouffle à maintenir son esprit propre. Né dans la foulée de mai 68, ça a d'abord été un centre expérimental d'une espèce unique, un albatros qui s'était posé dans le bois de Vincennes et qui battait des ailes en parlant sans trêve. En même temps, disaient ses adversaires, c'était un souk, une base de guérilla intellectuelle. Ils ont eu raison de Vincennes, qui est rasé à la fin du septennat de Giscard et transféré d'autorité dans un terrain étroit, ingrat, à Saint-Denis. Et là, l'albatros se révèle un phénix. Paris 8 accompagne à peu près toutes les évolutions du département de la semaine de Saint-Denis, qu'on les considère comme dangereuses ou comme prometteuses. Jusqu'ici, être de Paris 8, c'était une marque de fabrique vraiment singulière. On garde la trace.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nicolas Jounin, bonjour.
Bonjour.
Bah, je ne vais pas vous faire passer pour un témoin parce que vous aviez quel âge quand Vincennes a été rasé et...
J'avais moins un an.
Ouais. Et puis je ne vais pas vous faire passer comme une autorité parce que vous êtes un sociologue, maître de conférence à Paris 8 en congé pour l'instant, ce qui vous rend parfaitement libre dans votre parole, mais vous détestez le mot autorité.
Effectivement, c'est pas, et en tout cas en étant à Paris 8, en venant de Paris 8, c'est pas ce qu'on met forcément en avant. En tout cas, si on veut avoir de l'autorité, il faut la démontrer et ça se proclame pas par une chaire qu'on occupe.
Puis c'est bien d'être sociologue et de venir dans une émission d'histoire parce que c'est un maître mot, si le mot maître est possible à Paris 8, que celui d'inter, de pluridisciplinarité. Et puis on aime bien à France Inter vos travaux, votre enquête dans le milieu du bâtiment. Alors vous n'étiez pas encore enseignant à Paris 8 et vous étiez déjà intérimaire dans les chantiers de travaux publics.
Oui, effectivement. Donc là, c'était une enquête par observation participante, comme on dit chez nous en sociologie, donc en se faisant intérimaire ou stagiaire sur des chantiers ouvriers.
Et avec vos étudiants, on en reparlera dans la dernière partie de l'émission, vous avez visité les beaux quartiers. Pas loin d'ici, Paris 8 est allé dans le 8e.
Tout à fait, donc bon, pour des raisons un peu pragmatiques, hein, comment apprendre l'enquête à des étudiants, comment leur apprendre une enquête dans un terrain qui soit un peu exotique, pas forcément familier, qui ne reproduise pas les évidences du quotidien, et comment le faire quand on est dans une université pauvre, comme le disait l'un des étudiants là interrogé, eh bien quand on a juste un ticket de métro à se payer, on peut aller dans le 8e arrondissement depuis la fac de Saint-Denis.
On retrouve un peu les mêmes choses, parce qu'il y a autant de voies à l'avenue Montaigne qu'à Saint-Denis.
Mais qui effectivement n'ont pas la même signification, puisque avenue Montaigne... plutôt être porté par des clientes qatari ou saoudiennes et donc plutôt bien reçu à la grande surprise des étudiants qui se disaient, enfin des étudiantes en particulier, qui se disaient en allant près du ministère de l'Intérieur, près de l'Élysée, dans ce foyer un peu du pouvoir, elles avaient peur de ce que ça allait représenter, de ce qu'on allait leur renvoyer.
Alors vous allez être un témoin du Paris 8 de Saint-Denis d'aujourd'hui et puis raconter ce qu'on dit à Paris 8 de l'héritage, on peut employer le mot héritage. De Vincennes.
Tout à fait. Avec
alors Vincennes, ça commence par la convergence de deux projets. D'un côté, dans les amphis de mai 68, on entend des enseignants qui sont prêts à embarquer dans une aventure expérimentale. Et puis de l'autre côté, il y a un ministre de l'Éducation nationale, nommé par le général de Gaulle, Edgar Faure, qui est un cerveau fertile en invention et qui voudrait une université des temps modernes, peut-être à l'américaine. Et l'installation va se faire à Vincennes, dans le bois, très loin de tout. tout dans un terrain vierge au fond, avec comme mot d'ordre, si le mot d'ordre peut être utilisé, oui c'est assez 68 art, l'élargissement du recrutement.
Oui, tout à fait. Alors, le mot d'ordre, on a l'impression comme ça que c'est un mot d'ordre unique qui valait pour tout le monde, mais c'était extrêmement polémique. Il y a eu beaucoup de batailles sur cet élargissement, sur la possibilité de faire en sorte que des étudiants qui n'ont pas le bac puissent y arriver, sur le fait qu'un certain nombre d'étudiants étrangers puissent intégrer cette université. Ça peut être aussi un lieu d'accueil, notamment pour de nombreux réfugiés politiques d'Afrique ou d'Amérique latine. Et ça a été l'objet de bagarres menées par des enseignants, par des étudiants, et aussi par des personnels administratifs qui étaient aussi, à l'époque, très militants et combatifs.
Le plus important dans un établissement d'enseignement du type de Vincennes, ou plus tard de Saint-Denis, c'est le concierge.
Alors, entre autres, mais effectivement...
Et il y avait des enseignants de toutes sortes, parce qu'il faut aussi parler de l'élargissement du corps enseignant, beaucoup de professeurs associés.
Oui, alors ça a été beaucoup de vacataires, beaucoup de gens, des fois tout juste sortis de la maîtrise, qui devenaient enseignants à l'âge de 22-23 ans, recrutés à la va-vite, parce que c'était un corps enseignant qui devait être tout d'un coup constitué, et sur des bases qui n'étaient pas les mêmes que à la Sorbonne. Clairement, c'était pas forcément les disciples d'un maître. Alors parfois, c'était les disciples d'un leader politique, ou ils étaient recrutés sur des bases plus politiques que scientifiques, mais aussi de toute façon dans des disciplines qui étaient en train de s'inventer, qui n'existaient pas forcément ailleurs à l'université.
Des recrutements souvent politiques, oui, enfin... À l'intérieur de la gauche. Des gauches, il y avait des dosages.
De toute façon, effectivement, il y a eu deux centres expérimentaux qui ont été créés en 69. Il y a d'un côté Vincennes, il y a de l'autre Dauphine. Donc ce sont deux pôles clairement qui s'opposent, ne serait-ce que par la localisation géographique. Dauphine est plus près d'ici, dans le 16e. Donc c'était effectivement conçu un peu comme le ghetto de la gauche de la gauche. Et il y a eu des combats homériques, mais qui opposaient d'un côté le parti communiste, à l'autre côté différentes fractions du gouvernement. Gauchisme de l'époque.
Un tiers, le cocktail c'est quoi? Un tiers.
Ce qui se racontait sur le recrutement du département de philosophie, c'est une anecdote qui court, c'est un tiers de maoïste, un tiers de trotskiste, un tiers d'amant de Foucault, mais c'est forcément une anecdote un peu fausse puisqu'il doit y avoir des doublons.
Alors comment physiquement se présentait Vincennes, parce qu'il n'en reste aucune trace? Alors là, un reportage de Pierre Alain au journal télévisé, puis ensuite des témoignage recueilli dans l'excellent documentaire de Virginie Linhart, L'université disparue.
Les grilles franchies, on y trouve une crèche réservée aux enfants des étudiants, des enseignants ou des employés. On entre tout de suite dans quelque chose qui ressemble à une communauté. Deux pas de plus et l'on est assailli par les affiches, les graffitis rédigés dans toutes les langues. Évidemment, Vincennes peut sembler sale. Mais Vincennes et ses professeurs ont aussi voulu rénover l'enseignement en créant des disciplines nouvelles. Les cours, donnés souvent le soir, vont de l'histoire au cinéma en passant par l'anglais ou la psychologie, alliant le scientifique au littéraire. Pas d'examen final, mais un contrôle continu fondé sur un système original, les unités de valeur. L'expérience est un succès, et comme tous les succès, celui de Vincennes peut être gênant.
Il y avait dans le grand hall de la fac un souk insensé, enfin, sorte de marchand du temple, enfin bon, qui s'y trouvait là. Dans le même temps, on avait l'impression qu'on passait des heures à pinailler, à se chamailler. Dans le même temps, le savoir était présent. Le savoir passait dans toutes les salles. Vous rentriez tout d'un coup dans une salle, personne ne vous demandait si vous étiez étudiant ou pas, vous vous asseyez, et pendant une heure, pendant deux heures, vous écoutiez quelque chose qui certainement allait vous marquer pour toute votre vie.
Tous les plus grands linguistes, psychanalystes, philosophes, historiens, cinéastes de France, de l'étranger, sont là. Aucune université américaine, même avec les moyens qu'elles peuvent avoir aujourd'hui, ne pourrait se payer le casting qui existe à ce moment-là à Vincennes.
François Samuelson, qui a maintenant le langage d'un agent littéraire et qui était à l'époque étudiant à Vincennes. On n'a pas parlé, si le nom de cinéma a été prononcé, de la psychanalyse.
Effectivement, c'est là qu'a se développe universitairement la psychanalyse. C'est là aussi que, par exemple, se développent des départements de langues minorisées. On va trouver donc des langues méprisées par les colonisateurs et qui vont là trouver un moyen d'être enseignées et étudiées. on va trouver des enseignants aussi qui viennent vraiment des, qui ont été consacrés par les institutions les plus prestigieuses. On va avoir Foucault, on va avoir Passeron en sociologie, donc des gens qui viennent de l'école normale supérieure, qui cherchent à créer un petit peu autre chose, mais qui peuvent être aussi dans un certain classicisme pédagogique. On entendait, je crois d'ailleurs, c'est Gérard Miller, si je crois bien avoir reconnu, qui dit on peut pendant une heure écouter quelque chose. Et effectivement, on voit beaucoup d'images de Vincennes où un cours de Deleuze, un cours de Châtelet en philosophie, des gens écoutent un maître. Alors certes, ils sont beaucoup, c'est un peu le souk, ils sont en train de fumer, donc il y a quelque chose qui est un petit peu subversif, mais en même temps, du point de vue pédagogique, ce n'est pas forcément là que c'est le plus subversif. Et en même temps, il y a à Vincennes aussi tout un tas d'expérimentations pédagogiques où les étudiants ne viennent pas forcément pour écouter, mais pour faire des choses.
Voilà, ils écoutent un maître, ils l'enregistrent au magnétophone, et puis après, ils vont publier 30 ans après les cours, mais ils interpellent, ils dialoguent. Il arrive que Deleuze soit contesté, et Deleuze, parce qu'on tutoie volontiers à Vincennes, ça va pas, tu dérailles. Et ici, Foucault répond à des objections. Foucault n'a été professeur qu'un an, en 69-70, mais il a largement constitué l'équipe du département de philosophie.
On rentrait, on poussait une porte, bon, on rentrait chez Deleuze. On poussait une autre porte, on rentrait chez Lapassade. On poussait une troisième porte, on rentrait chez Foucault. Les gens étaient éberlués. C'est-à-dire que, par exemple, les cours des grands, des très grands, je pense à Deleuze, je pense à Lyotard, je pense à Châtelet, il y avait une rangée de magnétos sur les premières tables.
Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, je crois que tout se passe comme si le pouvoir n'était rien d'autre que quelque chose qui produisait du réel pour que les intellectuels aient le plaisir d'en parler. Alors, je répondrai ceci, c'est que si vraiment le pouvoir ne crée d'autre réel que celui qui donne l'occasion aux intellectuels de parler, comme le pouvoir, c'est une chose agréable. Deuxièmement, vous m'avez demandé pourquoi je parle du pouvoir. Bien, quand si j'ai parlé de l'enfermement des fous, c'est parce que l'enfermement des fous existait et que je souhaitais que l'enfermement des fous n'existe plus. Si j'ai parlé du système carcéral, c'est parce que le système carcéral existait et que je souhaitais qu'il n'existe plus. Maintenant, si vous me demandez pourquoi je parle de ce dont je parle, je vous dirai que je parle de ce dont je parle parce que ça me fait plaisir, et qu'il n'y a aucune loi, aucun pouvoir, aucun flic, et pas même mes amis les juges, qui m'empêcheront de dire ce que j'ai envie de dire. Personne n'est forcé de me lire, ni de m'entendre.
Foucault, pendant son passage bref, mais fulgurant, à Vincennes en 69-70. Foucault, vous sembliez l'écouter avec beaucoup d'attention, mais est-ce que vous prêtez la même attention, Nicolas Jounin, à ce qui se dit de plus en plus maintenant? Les universités de ces années-là, et Paris 8 en premier, mettaient toujours des guillemets au mot « héritage » et ils se donnaient la volonté de les considérer comme une imposture, comme une supercherie. C'était la déconstruction. Et maintenant, nous disent beaucoup de conservateurs, il est temps de revenir à l'affirmation.
Oui, alors après, il convient aussi, je pense, de déconstruire en partie l'héritage de Vincennes, ou en tout cas de ne pas le considérer comme une tombe qui nous tombe dessus et qui nous écrase, mais effectivement comme un certain nombre de choses qu'il faut faire fructifier. On parlait de l'élargissement du recrutement, de l'ouverture aux non-bacheliers, de l'ouverture aux étudiants étrangers. Certes, ça a été délocalisé à Saint-Denis, ça a déplu à beaucoup de gens, mais aujourd'hui, par cette localisation, par ce qu'elle permet, c'est là principalement, avec d'autres universités périphériques, que les classes populaires étudient, que les étudiants étrangers étudient, un tiers des étudiants de Paris 8.
Alors vous avez bien retourné la balle et vous avez même pris de l'avance sur la partie qui va venir, Nicolas Jounin, parce que, oui, maintenant Vincennes est à Saint-Denis. Mais comment ça s'est fait? Alors, on ne parlait pas de l'affirmation à l'époque chez les conservateurs, mais on disait c'est une base rouge. Des guérilleros vont en sortir et y entrent des trafiquants de drogue. Et il faut faire quelque chose, c'était l'argumentation.
Oui, alors il y avait clairement une focalisation de la droite gouvernementale sur cette université, vue comme un foyer de dissidence et de subversion, et un acharnement manifeste, notamment donc de la ministre de l'époque, Alice Sonnier-Céité, qui a fait raser, vraiment de manière brutale, de manière autoritaire, ce campus de Vincennes, qui probablement aurait pu tenir encore un petit peu. Et puis le fait de le faire raser, on ne sait plus quand on va au bois de Vincennes, on ne sait plus où c'est, enfin de faire effacer sa mémoire est vraiment très significatif.
Mais même il y avait un peu de folie dans le milieu de raison présente et active de Vincennes. Judith Miller, jeune enseignante à l'époque dans le département de philo, disait « Mon but politique, c'est de faire fonctionner de plus en plus mal l'université ».
Il y avait effectivement ce grain de folie, mais est-ce que c'est beaucoup plus fou que les rêves bureaucratiques de ministres de l'enseignement supérieur des dernières années et de la plupart des présidents d'université à leur suite? Il y avait du moins ce contrepoint, ce contre-pouvoir de Vincennes, et c'était université parmi d'autres. Je rappelle que Dauphine était créée en même temps, je ne sais pas si c'était beaucoup plus sain d'esprit, c'était dans cet univers-là aussi que ça se déployait.
Donc le déménagement forcé à Saint-Denis a lieu avant que vous ne naissiez, Nicolas Jounin. C'est à partir de 80 que dans un espace beaucoup plus petit, l'université de Vincennes, qui garde encore ce nom, mais qui porte surtout celui de Paris 8, dorénavant, va évoluer. Alors Saint-Denis, le comte de Bouderbala avait un an, un grand corps malade à l'époque, en avait trois.
Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution. Verlan, rebeu, argot, gros processus de création. Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vanne. Un DEA de Chambray, tu ne répartis jamais en panne. Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien. Appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien. On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans. On a l'insulte facile, mais un vocabulaire innovant. Je viens de là où dans les premières soirées, ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes amères. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où comme partout, quand on dort, on fait des rêves. Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien de là où je viens, c'est comme tout endroit sur terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Paris 8, au moment de sa rentrée universitaire, Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis, une petite région qui a un sacré caractère et dont on est fier. Oui, parce que Vincennes va résister une fois transplanté à Saint-Denis. Il faut dire que le climat politique après 1981 lui est moins défavorable et elle va trouver un terreau, une très bonne entente d'ailleurs avec la ville de Saint-Denis, alors que la ville de Paris ne se préoccupait pas de Vincennes, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Il va y avoir des collaborations qui vont se développer, malgré peut-être le pari gouvernemental que les communistes allaient étouffer les gauchistes de Saint-Denis, de Paris 8, puisque c'était installé dans la banlieue rouge. Et donc, malgré tout, un certain nombre d'enseignants, d'étudiants vont savoir faire fructifier cet ancrage dans le territoire. On entendait parler de la passade tout à l'heure. Bah, par exemple, ça va être un passeur qui va permettre une éclosion du rap et une reconnaissance aussi dans un cadre universitaire à l'intérieur.
Oui, ça fait quelques bruits,
Paris 8.
Les cours de la passade sur les musiques populaires, avec sur les bancs et derrière les tables.
De manière générale, les cours de la passade faisaient parler.
Alors, quand vous arrivez, vous trouvez quel climat, quel milieu étudiant?
Un milieu assez mélangé, assez hétérogène, et c'est aussi ce qui est intéressant. Alors un milieu extrêmement populaire, en particulier dans des disciplines comme les nôtres, sociologie et anthropologie, avec beaucoup d'étudiants étrangers, mais qui arrivent un peu plus tard pour des questions de visa essentiellement, dont un certain nombre par ailleurs sont sans papier, puisque Paris 8 c'est une fac qui pendant longtemps, je ne sais pas exactement où ça en est maintenant, parce que
jusqu'à vous êtes en congé.
Elle est travaillée par des forces réactionnaires qui se manifestaient de plus en plus, mais c'était une fac qui continuait d'inscrire les sans-papiers. Alors après, avec toutes les contradictions du fait d'être un ghetto, rien n'oblige les facs à refuser les sans-papiers, mais par un zèle étonnant et qui ne correspond a priori à aucune injonction. Même Valérie Pécresse s'en était étonnée quand elle était ministre de l'enseignement supérieur. La plupart des facs refusent les étudiants, demandent un titre de séjour pour l'inscription. Voire, les services de scolarité disent « mais allez à Paris 8, là-bas on va vous prendre ». Moyennant quoi, à Paris 8, le nombre d'étudiants sans papier explose ça donne évidemment du grain à moudre pour ceux qui voudraient les exclure. Donc c'est aussi
les dilemmes du ghetto. À la découverte de votre éditeur habituel, une enquête sur les mouvements des sans-papiers signée par vous et par d'autres. La base sociale, c'est quand même les étudiants, surtout dans votre secteur, les étudiants des familles pauvres de l'Académie de Créteil.
Oui, tout à fait. C'est ça qui, c'est en ça que je dis qu'on peut faire fructifier le legs de Vincennes. C'est que à Vincennes, l'objectif était justement d'élargir l'université aux enfants des classes populaires, aux travailleurs, et que à l'époque, c'était forcément les débuts. Donc, cet objectif n'était que partiellement atteint. Et maintenant qu'on se retrouve à Saint-Denis, eh bien, effectivement, mais comme dans le cadre de la massification universitaire des années 80, comme tout un tas d'autres universités en province ou ailleurs en banlieue, c'est l'endroit privilégié pour l'étude des classes populaires bien davantage qu'à Sciences Po, alors qu'on nous a baratiné pendant plus de 10 ans avec les conventions ZEP, mais où on voit que le recrutement social est tout particulièrement stable.
Je m'appelle Bastien et je suis étudiant en culture et communication à Paris 8. C'est un peu le foutoir, mais en même temps, ça a son charme. J'ai entendu parler d'autres facs, et puis par rapport au lycée, par rapport à ce genre de choses, c'est complètement désorganisé. Il y a toujours des files d'attente de tarés, il n'y a jamais assez de personnel pour s'occuper des élèves. Chacun va bricoler un peu avec ça, puis au final, ça va donner quelque chose de plus riche, et humainement, et dans les cours. C'est peut-être plus attaché au réel que dans d'autres facs. Hein. J'ai vu des étudiants du cœur de Paris, et c'est souvent, pour beaucoup, des petits-fils à papa qui grandissent dans Paris, qui travailleront jamais, qui... Et c'est vrai qu'à Saint-Denis, tous les étudiants travaillent ou presque. Moi aussi, je travaille. Les étudiants sont plus vieux aussi. Ils ont souvent au moins 20 ans dès la première année. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers, mais étrangers de nationalité étrangère, que ce soit d'Afrique, d'Amérique du Sud. Il y a énormément de Sud-Américains, il y a énormément de Scandinaves, d'Europe de l'Est. Mais donc, c'est moins bourgeois qu'à la sortie de Tolbiac, où on peut les voir avec leur sac Longchamp.
On a même à Saint-Denis une très belle bibliothèque, l'espace s'est élargi. Il y a une très belle bibliothèque construite par un grand architecte, Riboulet. On avait le projet que cette bibliothèque serve aussi aux habitants de Saint-Denis.
Oui, et notamment parce qu'il y avait des financements du Conseil Général pour ça. C'est pas forcément suffisamment le cas. Moi, cette bibliothèque, je la trouve pas assez remplie à mon goût, alors qu'effectivement, comparée à tout un tas d'autres équipements de Paris 8, et je n'évoquerai même pas les toilettes, elle est magnifique. En plus, Paris 8 est confronté au dilemme du sécuritarisme en mettant maintenant des vigiles à l'entrée, alors que théoriquement, cette bibliothèque est ouverte à n'importe quel habitant du 93 et donc n'a pas de carte d'étudiant à montrer pour y entrer.
Alors, vous parlez beaucoup de l'entrée des étudiants. Et maintenant, si on parlait de leur sortie, de leurs travaux de terrain. Alors, en histoire, on va aux archives. Et les archives, maintenant, sont installées aux côtés de Saint-Denis. Pierre Fitte pour les archives nationales, la Courneuve pour celle du Quai d'Orsay. Alors, racontez-nous cette enquête de terrain que pendant 3 ans, vous avez menée avec vos étudiants de première année de sociologie jusqu'ici.
Ça s'inscrit vraiment, je pense, dans la tradition au moins du département de socio-anthropologie de Paris 8, qui est intéressant à plusieurs titres. D'une part parce que c'est le premier département de sociologie et d'anthropologie, et qui mélange les deux, qui prend le pari dès le début que l'étude des sociétés primitives, comme on disait à l'époque, et des sociétés développées, ou plutôt l'étude des sociétés colonisées et des sociétés colonisatrices, c'était une seule et même discipline et qu'il n'y avait pas de raison de les distinguer. Donc c'est déjà ce premier pari. Alors après, à l'intérieur, il pouvait y avoir un gros foutoir avec des intitulés de cours extrêmement différents, mais il y avait aussi une tendance assez nouvelle à faire de l'enquête de terrain très tôt. Inspiré de la sociologie états-unienne, mais aussi de pratiques militantes, notamment dans le maoïsme, de faire des enquêtes de terrain pour nourrir sa parole politique. Et voilà, donc moi j'ai simplement repris ça, je suis l'héritier des collègues qui m'ont initié à ça, et en l'occurrence, donc l'idée a été d'emmener des étudiants de Seine-Saint-Denis, étudiants à Paris 8, enquêter sur les quartiers bourgeois, sur un milieu extrêmement exotique.
Donc direction le 8e arrondissement, il faut des fixeurs dans le 8e arrondissement ?
Bah, on n'en a pas les moyens, effectivement. C'est ce que font, par exemple, dans l'autre sens, des journalistes de télé, peut-être de radio, je ne sais pas, mais pour la télé, il y a une enquête sociologique là-dessus, qui utilisent des fixeurs comme on utilise dans les pays en guerre quand ils vont en banlieue, donc c'est-à-dire des personnes qui sont rémunérées pour leur donner des contacts. Moi, je me suis contenté de prendre des annuaires, des comités de riverains ou de commerçants.
Alors, ils sont assez impétueux, hein, vos étudiants. Par exemple, ils vont demander à X, vous avez payé combien votre appartement ? Bon, question difficile quand même. Elodie et Astrid visitent les chambres des hôtels pour voir si elles peuvent éventuellement les utiliser. Rachid entre lui simplement pour demander le prix et les voici maintenant dans un établissement très important du quartier dans le 8e arrondissement.
Alors du coup, là on est devant le Plaza Athénée, toujours avenue Montaigne. Et c'est là où tu as fait ton terrain ?
Ouais. Et il se trouve que quand on est rentré dans le restaurant était quasiment vide. On nous a installé vraiment au fin fond de la galerie, dans une alcôve, invisible des autres, totalement irréel. Donc on a fait notre observation, mais même avec l'envie de vouloir se dire que ces barrières-là, moi je me les mets pas, au final, on n'a pas osé changer de table, alors que l'observation, pour nous, ça voulait dire aussi regarder ce qui se passe autour. J'ai même pas osé aller fumer. J'ai même pas osé aller aux toilettes. Quand on est sorti, parce qu'on a dû traverser la galerie en sens inverse, les conversations se sont arrêtées. Tout le monde nous a regardés. Qui sont ces gens ? Que font-ils ici ? Donc voilà, on savait pas qu'on allait boire un café au Plaza Athénée. On était en jean, on était en tenue d'étudiante classique avec des trous, un t-shirt du PSG. Enfin voilà.
Ah oui, quand même.
On connaît pas du tout. Du tout. Voilà. On avait juste envie de courir, de finir les derniers mètres et de rentrer chez nous, quoi.
Guy Van Til a fait ce reportage pour Comme un bruit qui court. L'envie de rentrer chez soi. Certains ont abandonné ou rentré chez eux, manger le plus vite possible.
Oui, oui, tout à fait. Moi, le premier, hein, parce que elle insiste beaucoup, l'étudiante en question, sur la difficulté qu'il y avait à entrer dans le Plaza Athénée, mais du moins a-t-elle eu le courage de le faire, et alors que moi, jamais.
Et mais vous donnez l'impression de pas savoir différencier une chaise Louis XIV d'un fauteuil Louis XVI.
Oui, j'ai un peu honte de le dire dans cette émission, mais oui, c'est effectivement pas ma spécialité.
Il y a des nuances quand même. Entre Louis XIV et Louis XVI, on peut vous apprendre, mais il y a des nuances dans la bourgeoisie, dans les conditions de réception de vos étudiants, on les voit.
Oui, tout à fait. Donc, les étudiants ont eu notamment à interviewer des habitants très aisés de ce 8e arrondissement, en étant plus ou moins bien reçus, en faisant face à plus ou moins d'humiliation. J'appelle humiliation des formes de rappel à l'ordre, à l'ordre social, donc, et de la position nécessairement défavorable de ces étudiants relativement à leurs interlocuteurs.
Ce que j'ai fait tout à l'heure avec le Louis XIV et le Louis XVI.
Voilà. Et, en même temps, une forme de communication qui s'installe relativement inattendue, parce que probablement ces personnes ne seraient pas rencontrées autrement. Et des fois, du coup, des raisonnements aussi ordinaires chez les interlocuteurs qui sont bousculés. Je pense à cette dame notamment, qui, découvrant que l'étudiante en face d'elle non seulement est étudiante, mais travaille pour subvenir à ses besoins et paye son propre appartement, pense à son propre fils, qui est lui entièrement subventionné pendant qu'il est son école de commerce est payée. Et donc je sais pas si c'est un mélange de culpabilité, enfin si c'est de la culpabilité ou si c'est une espèce d'angoisse par rapport à la reproduction de sa position sociale à travers les générations, parce que au fond cette étudiante fait beaucoup plus d'efforts que son fils.
Vous êtes courageuse, mademoiselle.
Voilà, c'est ce qu'elle lui dit.
Dites-moi, est-ce que vous avez posé la question à vos étudiants de Saint-Denis, ça vous donne pas envie de devenir riche ? Vous vous souvenez de ce qu'a dit un ministre de l'économie qui prône la mobilité ? Un jeune doit pouvoir devenir milliardaire, ou en tout cas rêver d'être milliardaire.
Je confesse que je ne l'aurais pas autant seriné que lui, et je l'aurais pas forcément posé la question, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'ils fassent des choses, c'est qu'ils enquêtent, c'est qu'ils s'autorisent à avoir une parole sur le monde social, mais pas en étant des petits éditocrates de banlieue comme peut l'être un Zemmour ou quelqu'un d'autre, mais par à travers l'enquête, à travers le fait d'avoir fabriqué des connaissances. Donc c'était surtout de ça dont on parlait. Après, certains pouvaient effectivement manifester de l'envie, mais je pense aussi qu'ils ont mesuré davantage à travers cette enquête l'importance des les barrières de classe, la faible probabilité d'accéder à ces mondes-là en raison de la pesanteur, pour le coup, de l'héritage.
Ne sous-valorisez pas celui de Paris 8, cependant. Nicolas Jounin, alors je rappelle, parmi vos travaux, tous fort intéressants, Voyage de classe aux éditions de La Découverte. L'équipe de la Marche de l'Histoire, Mathilde Novel, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la réalisation Valérie Aestaraï et à la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos. Au programme de La Tête au Carré, cher Mathieu.
Oui Jean, on va parler des sciences de la communication avec l'un de ses grands observateurs, le sociologue Dominique Volton.
Il est déjà là, Dominique Volton?
Ben non, bien sûr que non. Vous connaissez Dominique Volton.
Absolument.
Il n'est jamais là à l'heure.
C'était une question pleine d'ironie.